Donc là, c'est simplement une petite introduction ce soir. Hein, on commencera demain matin. C'est pour vous mettre un petit peu en condition, pour vous montrer un peu quel est le but de cette retraite qui se fait ici depuis quelques années. Donc une retraite en soi, c'est un temps de repos physique et spirituel. Le but d'une retraite, c'est de rapprocher de Dieu. Donc je pense que c'est pour cela que vous êtes venus. Maintenant, c'est vrai que pour qu'une retraite soit vraiment profitable à l'âme, il est aussi nécessaire d'avoir un minimum de conditions physiques, donc de sommeil et puis aussi de nourriture. Alors j'espère qu'on s'occupera bien de vous. N'hésitez pas si jamais donc certaines ont un régime alimentaire ou un problème particulier, donc à nous le soumettre. Et puis si certaines aussi sont dérangées par leurs voisines, eh bien, vous pouvez aussi le dire, parce qu'il y en a qui ont peut-être plus de mal à dormir. Donc, on a encore quelques chambres de libre. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, on changera à ce moment-là votre chambre. On changera de chambre. Pour faciliter le repos des autres aussi, donc, c'est important. Donc, évitez d'utiliser les robinets, les chasses d'eau après 22 heures, et puis le matin avant 6h30. Donc normalement, le lever est fixé à 7 heures le matin, donc c'est quand même pas trop tôt, je l'espère. Bon, maintenant, certaines, il faut peut-être plus de temps pour se préparer. Mais en tout cas, évitez de faire du bruit avant 6h30 pour ne pas gêner vos voisines. Pendant la retraite aussi, c'est important de prendre l'air. Donc vous allez avoir des instructions, il y aura des moments qu'on passera à la chapelle et dans votre chambre aussi. Mais n'hésitez pas à prendre l'air, c'est aussi nécessaire pour pouvoir... faire en sorte que les vérités qui vous sont proposées, pour pouvoir les méditer, c'est important de pouvoir les méditer devant le bon Dieu, bien sûr, dans le Saint-Sacrement ou dans votre chambre, mais aussi la nature aide. Vous avez la chance d'être dans un beau paysage, hein. Falavigny, c'est vraiment un endroit superbe, donc profitez-en également. Aussi, certaines ne savent pas trop comment occuper leur temps libre quand elles ont eu l'habitude des retraites de Saint-Ignace. Ici, on vous demande pas de rester nécessairement 25 minutes dans votre chambre avec un coup de cloche qui va sonner au bout de 20 minutes. Bon, c'est très bien de le faire, hein, c'est très très bien. Ce sont des retraites qui portent beaucoup de fruits. Mais donc là, c'est laissé à votre libre initiative. Donc c'est à vous de savoir occuper vos temps libres. Donc si vous voulez faire comme pour notre Saint-Ignace, rester 25 minutes après chaque instruction dans votre chambre, c'est très bien. Si vous voulez rester à la chapelle, c'est très bien aussi. Si vous voulez rester 5 minutes seulement, c'est très bien aussi. C'est à vous de gérer votre temps. Pour gérer ces temps libres, on vous a aussi mis des livres à votre disposition. Donc il y a deux types de livres. Il y a des livres qui sont à acheter et des livres qui sont à emprunter pour la retraite. Donc, n'hésitez pas à prendre un livre pour cette retraite. C'est souvent aussi un bon compagnon, un bon livre. Hein. En dehors des instructions, en dehors des lectures que vous aurez à table, un bon livre peut être aussi un bon guide. N'hésitez pas à demander conseil aussi, éventuellement, si vous ne savez pas trop quel type de livre emprunter pour cette retraite. Mais évitez quand même d'avaler 36 livres dans cette semaine. Hein. C'est quand même pas le but. Si vous aimez beaucoup les livres, donc ne vous laissez pas avoir en avalant 36 livres. C'est pas le but. Le but, vous voyez, c'est dans une retraite, c'est une vie un peu au ralenti pour arriver à mieux assimiler des vérités que vous connaissez déjà. Donc le but, c'est pas forcément d'apprendre des choses nouvelles, mais de faire en sorte d'approfondir les vérités que vous connaissez déjà. Et donc, normalement, les instructions sont là pour vous y aider, et le rythme de la retraite elle-même, normalement, est là pour vous aider à assimiler ces vérités. Mais pour assimiler ces vérités, il faut du temps. Et il y a des lois, et donc il faut aussi du silence. Donc soyez très respectueuses des autres, parce que si vous parlez, en général, on ne parle pas tout seul. Hein. Enfin, à un certain âge, ça peut arriver, mais... Donc, ne dérangez pas vos voisines, donc ne parlez pas. Alors maintenant encore, après si on faut rentrer plus après sur les considérations pratiques, les horaires vous avez constaté donc sont affichés juste à l'extérieur de cette porte ici. Vous avez l'horaire de là. Donc demain sera un lever à 7h, à 7h30 on se retrouvera à la chapelle et à 8h on se retrouvera pour le petit déjeuner. Les prêtres vous recevront si vous le souhaitez pendant les temps libres. Alors, si vous arrivez à bien retenir, sinon, pendant les temps libres, vous aurez le temps de faire le petit tour du séminaire. Donc, vous pourrez en ce moment-là découvrir les lieux où se trouvent les prêtres. Mais déjà, si vous écoutez, donc dans le prolongement du cloître, Esli, Donc au fond se trouvera le bureau, se trouve le bureau de Monsieur l'abbé Grave. Ensuite, après, si vous continuez votre tour de cloître, donc en partant par la droite, donc là il n'y a pas de bureau à ce niveau-là. Et puis après, en revenant sur troisième aile, vous allez avoir la première pièce qui sera sur votre gauche, la salle Saint-Pidis. C'est là que recevra le révérend père Jean-Joseph. Et puis ensuite, dès que vous quittez cette pièce où se trouve le père Jean-Joseph, il y a un petit escalier qui monte au premier étage. Et sur la droite, donc se trouve le bureau de monsieur l'abbé Baudot. Et puis après, si vous revenez ici, pour arriver jusqu'ici, donc juste derrière vous, là, vous avez un escalier à nouveau. Donc un grand escalier, et juste derrière le grand escalier, un petit escalier qui monte au couloir Saint-Dominique et au couloir Saint-Marcel, qui se trouve au deuxième étage. Mais si vous arrêtez au premier étage, en Saint-Jean, eh bien, vous verrez le bureau de l'abbé Tronec. Voilà. Donc, mais enfin, tout ça, vous verrez ça demain. Hein. Ensuite, ne soyez pas surprise d'avoir du mal à vous mettre dans l'atmosphère d'une retraite. Là, ça dépend beaucoup des personnes. Des personnes ont de grandes facilités à... Bon, en raison aussi de, peut-être, de leur genre de vie, ont la facilité à se mettre dans une retraite. D'autres, il leur faut 24 heures, d'autres, il leur faut 48 heures. Donc là aussi, il faut respecter la nature. Donc, à vous d'éviter, bien sûr, les sources de dissipation. Mais ensuite, après, ben, pour s'apaiser en Dieu, il faut un certain temps. Donc, n'en soyez pas non plus surprise. Et autre chose aussi qu'on constate parfois, c'est que bon, des personnes qui sont assez actives n'ont pas l'habitude donc de ce rythme un peu au ralenti, et donc dans cette période-là, elles ont tendance à se replier un peu trop sur elles-mêmes. Donc c'est évident que dans une retraite, on vous rappelle des vérités, donc certaines vérités nous plaisent, d'autres sont plus difficiles hein, à accepter. Parce que notre nature est ainsi faite que dans ce que la religion propose, dans ce que le bon Dieu nous propose, il y a des choses qui sont agréables et des choses qui le sont moins. Et donc des retours aussi sur nous-mêmes peuvent entraîner des prises de conscience de choses qui ne vont pas très bien. Et à ce moment-là, il y a parfois donc des états d'âme qui sont pas des moments qui sont plus difficiles à traverser. Donc spécialement dans les moments plus difficiles à traverser, n'hésitez pas à voir les prêtres. Même aussi quand ça va bien, hein, n'hésitez pas à aller voir, mais surtout si ça va pas, en ce moment-là, allez bien voir les prêtres. Parce que certaines n'osent pas en parler, et du coup, elles restent avec cela, elles sont en train de broyer du noir, et du coup, elles sont plus dans le présent. Donc, elles s'échappent en ce moment-là. On a beau leur parler d'autre chose, eh bien, elles ne captent plus parce qu'elles sont obsédées par ce souci qui pèse sur l'âme, vous voyez. Donc c'est bien connu, vous savez comment vous marchez, je pense, c'est qu'en général quand vous parlez, après vous sentez normalement un petit peu mieux, quoi. Donc c'est important de, les prêtres sont là pour ça, donc ne pas hésiter à parler de ceux qui pourraient vous troubler au cours de la retraite. Voilà. Donc évitez donc des trop grands replis sur vous-même. Donc le but c'est de vous rapprocher de Dieu et pas uniquement d'être replié sur vous. Maintenant bien sûr aussi que quand on se rapproche du bon Dieu et quand on se voit à la lumière de Dieu, ben c'est sûr qu'on prend conscience quand même qu'il y a des choses certainement à améliorer en nous. Ça c'est normal. Hein. Et donc cela il faut aussi l'accepter. Vous voyez, il ne faut pas se fuir non plus, éviter de se regarder dans ce qui pourrait être aussi un peu plus désagréable et dans la mesure où c'est la vérité. Vous voyez, on doit aussi quand même accepter, s'accepter tel que l'on est et se voir aussi tel que l'on est. Donc il y a toujours ces deux écueils, la vie spirituelle est un équilibre, hein. Donc soit être trop replié sur soi, ou soit ensuite après être trop superficiel et donc refuser de voir ce qui en nous peut-être déplaire au bon Dieu. Vous voyez. Alors normalement si vous êtes généreuse, donc il ne serait pas surprenant qu'il y ait une prise de conscience donc de certaines choses à modifier en vous. Et si vous êtes généreuse aussi, il n'est pas non plus surprenant qu'il y ait des moments agréables où vous vous sentiez plus près du bon Dieu. C'est normal. En général, le bon Dieu récompense toujours les âmes généreuses. Maintenant, après, en fonction du degré de vie spirituelle, c'est sûr que le bon Dieu pourra se manifester d'une façon plus sensible ou moins sensible. Ça dépend après du degré de l'élévation de l'âme. Après, quand une âme est parfois plus avancée encore dans la vie spirituelle, le bon Dieu se cache davantage. Donc ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, mais c'est parce qu'il sait très bien que elle peut monter plus haut, donc elle a peut-être un peu moins besoin de sucre. Donc, faut accepter le sucre que le bon Dieu nous donne, mais bon, ensuite, après, il faut éviter d'être trop gourmande, parce que la gourmandise, c'est un vilain défaut. Ensuite, vous êtes là surtout donc pour admirer les grandes vérités que notre Seigneur nous a révélées et pour chercher à vivre, à en vivre plus profondément. Donc c'est déjà ce que vous cherchez à faire normalement dans la vie chrétienne de tous les jours, seulement vous constatez que très souvent c'est difficile. C'est difficile de se mettre en présence de Dieu, c'est difficile de méditer, c'est difficile de vivre au septième ciel. Et donc une retraite normalement est là pour vous donner une bouffée d'oxygène spirituel pour vous aider à avoir cet élan vers Dieu. Et si vous êtes aussi généreuse, donc vous devrez avoir probablement des moments un peu plus difficiles, des moments aussi agréables. Et l'effet normalement produit par une retraite, si vous êtes en tout cas dans la ligne de la retraite, vous devriez avoir ce désir de vous donner davantage au bon Dieu. Dès lors qu'on réalise qui est Dieu et qui nous sommes, eh bien spontanément, on se donne au bon Dieu. On ne peut pas faire autrement, puisqu'on est fait pour lui. Et Dieu est le bien infini. Dès lors qu'on se rapproche du bien infini, eh bien, c'est le bien infini qui nous attire. On ne peut pas ne pas être attiré par le bien infini. Et dans le monde, justement, c'est ça qui nous gêne, c'est que on voit des tas de biens qui sont limités, et ces biens limités peuvent nous aveugler, peuvent nous attirer. Mais dans une retraite où on essaie de penser à l'essentiel, eh bien là, on se retrouve... on comprend mieux qu'on est fait pour Dieu et donc spontanément on doit s'offrir complètement à lui. Ce n'est pas que les religieux qui sont faits pour le bon Dieu, on est tous faits pour Dieu. Et donc c'est normalement à la fin d'une retraite, on doit avoir une âme qui est donc généreuse, qui s'est donnée au bon Dieu et qui est plus paisible et plus confiante. Donc tous vos soucis ne vont pas forcément disparaître, mais vous devrez normalement, si vous êtes généreuse, les voir sous un autre jour et donc être plus forte pour les accepter dans la vie quotidienne. Alors, chaque année, nous vous présentons à peu près les mêmes instructions. Donc, ce sont des instructions qui sont générales, puisque comme je le constate encore cette année, donc plusieurs n'ont pas fait ce genre de retraite. Donc, c'est pour ça qu'on intitule ça « retraite de vie chrétienne ». Donc, ça reste dans les généralités. S'il y a un point sur lequel on met l'accent, c'est sur le fait, surtout, qu'on s'adresse donc à des femmes. Et donc, on essaie d'axer quand même les réflexions en tenant compte de cela. Monseigneur Lefebvre disait qu'il y a plus de points communs que de différences entre les âmes, et c'est vrai. Et c'est pour cela que les grandes vérités, on peut très bien les proposer à tout le monde. Maintenant, après, la manière de les proposer peut être différente en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Et c'est vrai que donc c'est l'avantage d'avoir un public que d'hommes ou que de femmes, parce qu'on ne parle pas exactement forcément de la même manière, même si ce sont les mêmes vérités, on ne les expose pas forcément de la même manière, suivant qu'on s'adresse aux hommes ou aux femmes. Alors, puisque je m'adresse à des femmes, eh bien, je vais me reprendre ce que disait le pape Pie XII, qui s'adressait aux organisations catholiques féminines le 29 septembre 1957. Il disait ceci. « La vérité la plus méconnue des hommes d'aujourd'hui et cependant la plus fondamentale pour vous est la relation de la femme à Dieu. La femme vient de Dieu, elle lui doit son existence, les caractéristiques de son être, de sa tâche terrestre et la destinée éternelle qui couronnera l'accomplissement fidèle de sa mission. » Alors cela, ça peut paraître curieux, vous voyez. Pourquoi est-ce que le pape, en s'adressant aux femmes, dit « la vérité la plus méconnue des hommes d'aujourd'hui, c'est la relation de la femme à Dieu ?» Pourquoi il dirait pas « c'est la relation de l'homme à Dieu ?» Pourquoi de la femme à Dieu ? Bon, bien sûr, parce qu'il s'adresse à des femmes. Mais c'est aussi parce que le pape va très bien l'expliquer, cela. Il va expliquer que la femme a essentiellement pour mission d'être mère. Vous voyez, toute femme est mère par nature, donc ça c'est très clair. Et donc, il faut que la maternité, d'ailleurs, de la femme s'exprime d'une manière ou d'une autre. Que ce soit, même dans le célibat, hein, peut très bien s'exprimer, mais toute femme est mère par nature. Et donc, dans le plan de Dieu, la femme a un don particulier pour transmettre les choses de Dieu aux générations à venir, et spécialement aux petits-enfants. L'éducation des petits-enfants doit être faite essentiellement par la maman. C'est sur les genoux de la maman que l'enfant apprend à prier. Et donc, le bon Dieu a programmé, je dirais, la femme dans ce sens-là, toute femme est mère, et la maternité va se manifester spécialement dans il y a la maternité physique, mais aussi la maternité spirituelle. Donc la femme est appelée normalement à transmettre les choses de Dieu aux générations à venir. Et c'est pour cela que le bon Dieu a donné à la femme, plus qu'à l'homme, c'est encore sa relation à Dieu. Et c'est pour ça qu'une femme qui n'est pas fidèle à Dieu est d'une certaine manière encore plus dénaturée que l'homme. Bien sûr que l'homme comme la femme est fait pour Dieu, sont faits pour Dieu. Mais la femme l'est encore d'une manière presque plus profonde en raison de sa mission d'éducatrice des générations à venir. Et c'est une évidence qu'aujourd'hui, ben, on vit dans un monde pourri, bon, vous le savez bien, hélas, bon, l'homme a perdu le sens de sa vocation, la femme aussi, beaucoup, bon. Mais pour arriver à redresser la situation, eh bien, on voit bien que pour corrompre l'homme, eh bien, la femme a été utilisée, hein, pour corrompre l'homme. Mais pour redémarrer maintenant et essayer de refaire une civilisation chrétienne, la femme aura un très grand rôle à jouer. Parce que justement, c'est la femme qui doit transmettre aux enfants le meilleur d'elles-mêmes, et elles sont normalement faites pour cela. Et dans le même discours, donc le pape Pie XII continuait en disant: si la vie révèle jusqu'à quelle profondeur de vice et d'abjection la femme descend parfois, Marie montre jusqu'où la femme peut monter dans le Christ et par le Christ. Quelle religion, quelle civilisation a jamais poussé l'idéal féminin à une telle hauteur, l'a exalté jusqu'à cette perfection? L'idéal de la femme, tel que la foi vous le présente, vous le trouverez en Marie, et il s'explique par l'intimité des liens qui la rattachent au Christ. Donc l'idéal de la femme, vous le trouvez en Marie. Et donc toute femme doit prendre la Sainte Vierge pour modèle. Et spécialement, ce qu'on peut constater en Marie, c'est cette intimité qu'elle avait avec son fils. Voyez. Et c'est pour ça que toute femme doit rechercher cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la conduite de votre vie personnelle, dans tout votre apostolat, ne perdez jamais de vue cet exemple, qu'il inspire vos paroles, vos attitudes, vos démarches, quand vous vous emploierez à mettre en lumière la dignité de la femme et la noblesse de sa mission. Voyez. La vraie dignité de la femme vient de sa relation à Dieu, et la vraie dignité de la femme vient du fait que toute femme doit avoir pour modèle la Très Sainte Vierge Marie, et spécialement la Très Sainte Vierge Marie dans ses rapports d'intimité avec son divin Fils. Donc le but de cette retraite, c'est justement de vous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez un peu plus fidèle à votre vocation de femme. Alors maintenant, pour terminer, je pourrais aussi prendre comme attitude. Donc, l'attitude de la Sainte Vierge vis-à-vis de son fils est exprimée deux fois en Saint Luc, c'est dans la vie cachée de notre Seigneur, où il est dit: elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez, elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Donc, le fait de conserver dans son cœur montre bien que ce ne sont pas des vérités qui doivent simplement effleurer votre imagination ou votre intelligence, mais sont des vérités qui doivent pénétrer jusqu'au fond de votre âme. La Sainte Vierge était une âme intérieure, donc toutes ces vérités qui étaient exposées donc sous ses yeux en voyant son fils, ces vérités-là, elle les conservait dans son cœur. C'est une grâce à demander au cours de cette retraite, de faire en sorte que vous puissiez puiser en profondeur dans les vérités catholiques et de faire en sorte que ces vérités s'impriment profondément dans votre cœur. Et pour cela, vous pouvez regarder, comme faisait la Sainte Vierge, notre Seigneur Jésus-Christ. Et spécialement, notre Seigneur Jésus-Christ doit être aussi pour vous un modèle de retraitant. Notre Seigneur a passé 40 jours au désert. Et c'est très intéressant de voir de quelle manière Saint Luc exprime ce passage de la vie de notre Seigneur. Jésus, plein de l'Esprit Saint, fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours et il fut tenté par le diable. Donc il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc certainement que c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit ici, c'est sûr. Donc vous avez été conduite ici par l'Esprit Saint, et bien il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit l'âme de votre âme au cours de cette retraite. Donc c'est pas uniquement à la force du poignet, et pas essentiellement à la force du poignet, que vous arriverez à évacuer tout ce qu'il peut y avoir encore de négatif en vous, ou de mal en vous, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit être l'âme de votre âme. Et donc, on peut constater que notre Seigneur donc a été conduit dans un désert. Et on peut rapprocher ce passage du livre d'Osée où il est dit, c'est Dieu qui parle: je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Donc le désert ici symbolise un petit peu le silence, vous voyez. La ville, c'est le bruit, c'est l'agitation. Le monde, c'est l'agitation, c'est le bruit. Et ici, vous êtes comme dans un désert, c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit silencieux. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. De quelle manière le Seigneur va-t-il vous parler? Par les prédications, je l'espère un petit peu, par les lectures de table, par vos lectures personnelles, et surtout par ce cœur à cœur que vous aurez avec notre Seigneur dans les temps libres. Donc Dieu parle dans le silence. Ça, c'est très clair. Le bon Dieu parle dans le silence. L'enfer, un enfer, c'est, d'ailleurs on parle bien de bruit d'enfer, vous voyez, cette expression-là, bruit d'enfer montre bien, l'enfer c'est un chaos, et le ciel au contraire est dans le silence, Dieu est dans le silence. C'est très beau de voir que dans l'introït du dimanche de l'octave de Noël, il est fait mention de la descente de notre Seigneur dans la crèche. Et il est dit ceci, alors qu'un profond silence enveloppait toutes choses, et que la nuit était au milieu de son cours, votre parole toute puissante est venue du ciel. Quand est-ce que le bon Dieu parle? La parole qui descend du ciel, la parole de Dieu qui doit descendre du ciel au cours de cette retraite, alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours. Donc c'est dans le silence que le bon Dieu parle. Celles parmi vous qui ont eu l'occasion de prier pendant la nuit, lors des adorations du Saint-Sacrement ou autre, ou peut-être le jeudi saint au soir, ont pu constater que souvent les heures de nuit passent plus vite en adoration devant le bon Dieu que celles du jour. Parce que le bon Dieu parle davantage dans le silence. Donc soyez généreuses dans ce domaine, vous voyez, le silence extérieur de la langue, bien sûr, entre vous, hein. Pas de portable aussi, hein. Maintenant, je suis obligé de faire cela quand les séminaristes rentrent au séminaire, donc ça, j'ai dû faire ça pendant depuis 4-5 ans. Avant, ça ne m'était pas du tout venu à l'idée, mais donc dès le début de l'année, je demande à ceux qui ont des portables s'ils veulent bien me les apporter. Donc c'est insupportable. Mais bon, alors donc au cours de la retraite, donc ne soyez pas donc branchés. Voilà. Enfin, soyez branchés, mais pas sur la même ligne. Ensuite, silence intérieur, c'est plus difficile. C'est oublier ses soucis. Est-ce que j'ai bien donné toutes mes consignes? Est-ce qu'ils arriveront à se débrouiller sans moi? Est-ce que bon, toutes ces questions-là, faut pas trop y penser. Oubliez également votre travail, vos prochaines vacances. Donc vivez bien l'instant présent. Dieu est dans le présent, vous voyez. Ça, c'est encore une chose à bien retenir pour arriver à avoir une vie intérieure. En Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Vous voyez. Dieu est dans le présent. L'éternité, c'est un présent. Quand on sera dans l'éternité, on sera dans le présent. Donc ici, nous sommes sur la terre. Donc le fait qu'on soit sur la terre nous donne la possibilité de revenir en arrière, nous donne la possibilité après aussi d'imaginer l'avenir. Mais si on veut avoir une vie vraiment féconde, eh bien, il faut surtout bien vivre l'instant présent. Donc essayez de bien vivre l'instant présent. Et c'est comme ça qu'on arrive au silence intérieur. Donc savoir abandonner le passé à la miséricorde de Dieu et le futur à sa providence. Et il fut tenté par le diable. Donc notre Seigneur était tenté au moment de sa retraite au désert. Donc là, c'est une chose un peu qui peut paraître aussi un peu curieuse, de se dire, ben voilà, moi je suis là, je viens pour me donner au bon Dieu, et puis paf, tentation, vous voyez. Eh bien non, le démon en fait, il n'aime pas les retraites, il n'aime pas les âmes qui prient, il n'aime pas les âmes qui veulent progresser. Donc il ne faut pas du tout être surpris hein, qu'il y ait un certain combat spirituel au cours d'une retraite. Bon, c'est plus ou moins prononcé en fonction des âmes, en fonction de la générosité, en fonction des tentations. Bon, mais c'est certain qu'il y a des moments aussi plus difficiles. Donc il y a des causes qui sont parfois physiques. Au moment où on commence à récupérer, c'est en ce moment qu'on est le plus fatigué. Bon, c'est comme ça. Des causes psychologiques, donc le fait le silence, donc la folle du logis se met en route, crise de scrupules ou cause spirituelle après, bon. Il y a des causes variées, mais quoi qu'il en soit, donc sachez vous en ouvrir simplement au prêtre pour qu'il vous aide à gérer ces moments un peu peut-être un peu plus délicats. Et puis à la fin, lors de ces 40 jours, eh bien notre Seigneur a été visité par les anges. Alors, je ne sais pas si vous aurez les anges qui seront à vos petits soins, mais en tout cas, j'espère qu'ils seront aussi présents au cours de cette retraite. Donc, dernier conseil, faites bien la retraite avec la Sainte Vierge est notre mère. Donc, faites-lui confiance. Certainement qu'elle est heureuse de vous voir ici et elle est toute prête à vous aider pour que ces 5 jours se passent dans les meilleures conditions. Donc c'est elle qui a formé les apôtres avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Tous d'un même cœur persévéraient dans la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Donc, priez la Sainte Vierge pour qu'elle vous accompagne durant cette retraite. Voilà. Puis, une peut-être chose pratique que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on demande à la chapelle que vous ayez la tête couverte. Bon, après, au cours de la retraite, on aura peut-être l'occasion de vous en parler un peu plus. La seule chose que je dirais à ce sujet-là, c'est que, puisque vous me direz peut-être que c'est un détail, alors si c'est un détail, s'il vous plaît, mesdames, n'en faites pas un plat. Voilà. Et puis après, pour le reste, après, venez voir dans mon bureau, on parlera tranquillement si vous voulez. Mais bon. Voilà. Donc, bonne retraite. Nous allons nous rendre à la chapelle. Si certaines sont un peu fatiguées, donc au lieu de faire les complies, comme on fera les autres soirs, on va simplement faire une prière un peu plus courte ce soir. Et donc, rendez-vous, sinon, pour. Donc, maintenant à la chapelle pour une courte prière du soir. Et demain matin, la cloche sonnera à 7 heures. Particulière dans le sens où il n'y a pas ensuite de prière particulière à la chapelle. Donc, elle est souvent un peu plus courte. C'est une instruction donc plus courte et. Là, elle va porter sur les psaumes et spécialement sur les psaumes des complies. Donc, le but, c'est de vous préparer à l'office des complies qu'on va avoir tout à l'heure. Donc, vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui, bon, plusieurs parmi vous, donc vous avez pu réciter les laudes. On a chanté les vêpres aussi pour celles qui sont venues. Et donc, dans tous ces offices, on chante des psaumes. Alors, ces psaumes peuvent paraître un peu compliqués, en fait, pour des simples fidèles. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi l'Église a choisi dans sa liturgie de maintenir ce psautier. Donc les prêtres disent leur bréviaire, les moines on l'appelle ça l'office divin, c'est la même chose en fait, ce sont les mêmes prières. Et essentiellement ce bréviaire ou cet office divin est renferme les 150 psaumes qui sont dits pour les prêtres sur une semaine. Et donc les fidèles, on les associe volontiers à cette prière de l'office divin, spécialement les invitant lorsqu'ils le peuvent à l'office des vêpres le dimanche par exemple, ou ici au cours des retraites à l'office des complies. Alors pourquoi l'Église a-t-elle choisi donc ces psaumes qui ont été composés dans l'Ancien Testament, donc avant la venue du Christ, hein? La plupart d'entre eux ont été composés par le roi David, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc on pourrait penser qu'il aurait été peut-être préférable de choisir des prières du Nouveau Testament pour la prière de l'Église. Alors pourquoi avoir maintenu ces prières de l'Ancien Testament? Prières d'ailleurs que vous allez retrouver à la messe. Par exemple, la messe commence par le psaume Judicamé, donc c'est un psaume, donc c'est un des 150 psaumes. Ensuite, lorsque le prêtre se lave les mains à l'offertoire, il dit le psaume Lavabo, le psaume 25, c'est encore un psaume. Et puis, donc, dans la plupart des introïtes, des graduels, Alléluia, l'offertoire, ce sont encore des versets de psaumes. Donc, pourquoi l'Église a-t-elle puisé dans ce psautier? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut dire que le psautier, c'est une école de prière sans pareil. C'est-à-dire que dans la prière, vous voyez, pour exprimer les sentiments justes par rapport à Dieu, il est nécessaire d'avoir des sentiments d'adoration. Dieu est infiniment au-dessus de nous. Il est nécessaire aussi d'exprimer sa reconnaissance, l'action de grâce. Il est nécessaire de demander à Dieu également ce dont on a besoin. Et puis, il est aussi nécessaire de lui demander pardon, parce que malheureusement, nous ne sommes pas toujours fidèles. Or, on peut dire que le psautier est une école de prière sans pareil. Il faut savoir que le psautier, donc c'est un des livres de l'Ancien Testament, le psautier. Donc les psaumes font partie de l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, est inspiré. C'est Dieu qui est l'auteur principal de toute la Bible. L'écrivain sacré n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Ça veut donc dire que les psaumes ont été, en fait, c'est la parole de Dieu. Les psaumes forment la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a inspiré au psalmiste toutes ses prières. Et donc ça, c'est déjà une raison, bien sûr, suffisante pour aimer le psautier. Ensuite, on peut dire que les psaumes ont un caractère messianique. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament prépare le Nouveau. Et donc les psaumes en particulier annonce le Messie. Donc il nous donne déjà une idée de ce que sera le Messie. Donc il y a des psaumes qui sont messianiques au sens propre, comme par exemple le psaume 21 qui développe toutes les souffrances du Messie. L'Église a mis ce psaume sur les lèvres des prêtres et des religieux le vendredi matin à l'office de prime. Donc c'est un psaume magnifique qui décrit toutes les souffrances de notre Seigneur et après tous les fruits de ces souffrances aussi. Donc il y a plusieurs psaumes qui sont messianiques. Mais même saint Augustin voyait à travers tous les psaumes l'image même de notre Seigneur. Donc, d'ailleurs saint Pidis cite saint Augustin. Saint Pidis dit ceci dans son encyclique Divinus Afflatus. Sous la lettre des psaumes transparaît l'image fidèlement tracée du Christ rédempteur dont saint Augustin entendait en eux tous la voix chantant ou gémissant, exultant dans l'espoir ou respirant dans la possession. Donc si on doit aimer les psaumes, c'est parce que les psaumes nous mettent sur nos lèvres les sentiments qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu, premier motif. Et deuxième motif, parce que les psaumes nous font connaître notre Seigneur, puisque les psaumes annoncent déjà notre Seigneur. Ensuite, un troisième motif d'aimer les psaumes, même si c'est une prière au début un peu difficile d'accès pour les simples fidèles, c'est que les psaumes furent la prière principale de notre Seigneur. C'est très bien, très bon aussi pour nous de méditer là-dessus, de réfléchir à cela. Pensez que quand on récite, quand on chante les versets des complis, se dire, ben, notre Seigneur lui-même a utilisé ces versets, voyez. Notre Seigneur a prié la prière des psaumes. Encore sur la croix, notre Seigneur dit « In manus tuas domine commendo spiritum meum » que nous aurons d'ailleurs ce soir encore accompli. « En vos mains, Seigneur, je remets mon esprit. » C'est une parole d'un psaume, le psaume 30, verset 5. Donc notre Seigneur a prié avec ce psautier. Et pour prouver qu'il était Dieu, par exemple, notre Seigneur a utilisé lui-même aussi comme argument pour prouver qu'il était Dieu, le premier verset du psaume 109 que nous avons eu tout à l'heure à l'office des Vêpres. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Dixit Dominus, Domino Meo, Celia Dextris Meis, hein, c'est ce que nous avons au début de l'office des Vêpres. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Alors notre Seigneur, par là, en utilisant ce verset, prouve qu'il est Dieu. En effet, notre Seigneur dit ceci, Le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu le Père. Dit à mon Seigneur, c'est qui? C'est Dieu le Fils, siège à ma droite. Il n'y a qu'un seul trône. Si donc le Fils s'assoit sur le même trône que le Père, c'est qu'il est égal au Père. Et donc notre Seigneur, pour prouver qu'il est égal à son Père, utilise ce verset du psaume 109. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Ou encore, lorsque notre Seigneur va rentrer dans Jérusalem, eh bien, lui sera appliqué le verset du psaume 117, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et sur la croix, notre Seigneur aussi, je vous ai dit, donc, « Immanus tuas domine commendo spiritum meum », et notre Seigneur a dit aussi, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Eh bien, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» c'est le premier verset du psaume 21. Donc, vous voyez que notre Seigneur, au moment où il va mourir, eh bien, les prières qui spontanément lui viennent sur les lèvres sont des prières, des versets de psaumes. Vous voyez. Ça montre qu'il était très familiarisé avec cette prière. Et d'ailleurs, dans les premiers siècles de l'Église, eh bien, les fidèles, les simples fidèles, connaissaient le psautier. Même certains pères de l'Église nous disaient que les fidèles connaissaient le psautier par cœur. Alors nous, les prêtres, aujourd'hui, on ne le connaît pas, mais... Saint Basile pouvait dire « Les psaumes sont le béaba des commençants et le soutien des avancés dans la vertu. » Et c'est ça qui est encore magnifique, vous voyez. C'est que un peu comme le rosaire aussi, on pourra vous parler du rosaire. Le rosaire est une prière qui est très belle parce qu'elle est elle est accessible aux gens simples et même ceux qui sont très élevés spirituellement peuvent trouver leur nourriture dans le rosaire. Eh bien, dans le psautier, c'est la même chose. Le psautier, nous dit Saint Basile, c'est le béaba des commençants et le soutien des avancés dans la vertu. Et Saint Jean Chrysostome dit à son tour, les psaumes nous procurent une abondante sanctification, purifient l'âme et attirent invinciblement le Saint-Esprit. Parce que parfois on se dit, par quel mot je pourrais toucher le cœur de Dieu? De quelle manière je pourrais prier et être sûr que le bon Dieu m'écoute? Oui. Eh bien, il n'y a pas de prière plus efficace que les psaumes, puisque c'est la prière même de Dieu. Si on a compris que la Bible, c'est la parole de Dieu, Eh bien, en priant par les versets que notre Seigneur lui-même nous a, que Dieu lui-même nous a appris, nous a communiqués, il n'y aura pas de meilleure manière de toucher le cœur de Dieu. Alors essayons, après cette brève introduction, de voir rapidement les psaumes des complis. Donc on vous a remis volontairement le texte là, en latin et en français, pour que vous puissiez mieux suivre ces psaumes des complis. Donc accompli, vous avez trois psaumes, le psaume 4, le psaume 90, et puis ensuite un psaume très court, le psaume 133. Donc tout d'abord, le psaume 4. On peut dire que, spécialement pour les deux psaumes qui sont plus importants, donc le psaume 4 et le psaume 90, que les versets des psaumes nous sont un petit peu comme des leçons de sagesse, voyez. Il y a un style poétique au psaume, donc un poème permet de dire certaines choses qui seront dites d'une façon différente que si on parlait dans un autre langage. Donc la poésie est un langage particulier, mais on peut dire que c'est des leçons de sagesse. En tout cas, dans ces psaumes, spécialement psaume 4 et psaume 90, ce sont des psaumes qui nous font réfléchir aux dispositions à avoir pour plaire à Dieu. Et spécialement les dispositions que l'on doit avoir le soir avant de se coucher, puisque c'est des prières de complices, c'est les prières du soir. Et on verra que les sentiments que l'Église met sur nos lèvres, enfin les sentiments qu'elle met dans notre cœur et les paroles qu'elle met sous nos lèvres, sont surtout des paroles de confiance et d'abandon à la Providence. Donc dans le psaume 4, on peut voir trois parties. Ce psaume a été écrit par David au moment d'un conflit qu'il avait avec Absalom. Donc trois parties. La première partie, c'est les versets 1 et 2. C'est une invocation à Dieu. Deuxième partie, c'est une méditation sur la vanité des hommes. Et par contraste, la troisième partie, qui va commencer au milieu du verset 6, c'est le bonheur du psalmiste. Donc, première partie, c'est une invocation, donc une prière à Dieu. Quand je l'invoquais, il m'a exaucé, le Dieu de ma justice. Donc, quand je l'invoquais, il m'a exaucé, le Dieu de ma justice. Alors ici, Saint Jean Chrysostome, en commentant ce passage, il dit, voyez, il parle du Dieu de sa justice. Donc, il y a plusieurs dispositions qu'il faut avoir pour être exaucé de Dieu, mais une disposition, en tout cas, qui est là, celle du psalmiste, c'est d'être juste, c'est-à-dire d'avoir une vie agréable à Dieu. Une condition pour que nos prières soient exaucées de Dieu, c'est d'avoir une vie qui lui plaise. Ou alors, si de fait on a une vie qui lui déplaisait, il faut en ce moment-là avoir le sentiment au moins du repentir de sa vie pour être agréable à Dieu. Mais là, il parle du Dieu de sa justice pour montrer qu'il est juste, qu'il a une vie qui est agréable à Dieu. Donc, il faut vivre en conformité avec la loi de Dieu si nous voulons que Dieu écoute nos prières. Ensuite, et c'est là que je parle de leçon de sagesse, c'est la deuxième partie du verset. Oui, vous m'avez donné dans la tribulation le large et la fécondité. Si on traduit mot à mot le latin, in tribulatione dilatasti mihi, dans la tribulation, vous m'avez dilaté. Donc, vous m'avez dilaté, ça veut dire que vous avez en quelque sorte comme élargi ma voix, donc ou fait grandir mon cœur. Et ce verset est un verset donc qui montre que si nous savons accepter les épreuves de la vie, et Dieu sait s'il y a des épreuves dans toutes nos vies, eh bien, nous aurons une vie qui sera plus féconde. Et nous aurons aussi un cœur qui sera plus profond. L'expérience montre que les épreuves, si on les accepte, loin de nous amoindrir, nous grandissent, voyez, dilatent notre âme. Une âme qui a beaucoup souffert et qui a accepté les souffrances que le bon Dieu a permis qu'elle ait dans sa vie, a un rayonnement et une profondeur plus grande que d'autres âmes, voyez. Même au même âge, par exemple, je vois ça chez les séminaristes, vous voyez, des séminaristes qui sont jeunes parfois et que je vois qui sont plus profonds que d'autres. Souvent, pas toujours, mais souvent, c'est parce qu'ils ont connu la souffrance. Vous voyez. Et si beaucoup de jeunes, on trouve aujourd'hui qu'ils sont immatures, c'est justement parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance. Ils n'ont jamais rencontré la souffrance, et donc, du coup, bien, ils ont été choyés, ils ont été cajolés, et du coup, ils ont moins de profondeur d'âme, quoi. Et ils sont parfois plus superficiels. Pas toujours, mais souvent. Donc, demandons au bon Dieu cette grâce d'accepter la tribulation. Et Dieu sait si David, qui utilise ce verset, a été aussi dans la tribulation. Donc, sachons utiliser nos épreuves pour grandir spirituellement et pour grandir dans la vie. Ayez pitié de moi et exaucez ma prière. Après avoir fait mention de sa justice, de sa propre justice, David fait appel maintenant à la miséricorde de Dieu. Et alors ici, Saint Jean Chrysostome pose la question, si David est juste, pourquoi est-ce qu'il a affaire à la, pourquoi est-ce qu'il recourt ici à la miséricorde de Dieu? Il répond, bien, quelle que soit la multitude de nos bonnes œuvres, ce n'est que par un effet de la miséricorde de Dieu que Dieu nous exauce. Donc on a toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Et donc il faut retenir l'importance de l'humilité pour recevoir les grâces de Dieu. Alors la grande leçon ensuite qui va venir dans la deuxième partie de ce psaume, c'est une méditation sur la vanité des hommes en général. Quand il est fait mention des fils des hommes dans les psaumes s'opposent à fils de Dieu. Les fils de Dieu, bien ce sont ceux qui sont fidèles à Dieu. Et les fils des hommes, ce sont ceux qui ne vivent que pour la terre. Et donc le psalmiste, il dit que Dieu l'a exaucé au milieu de ses tribulations, donc la vie sur terre est un combat, et maintenant il se tourne vers les hommes, et il regarde comment vivent les gens dans le monde dans lequel il était. Et il dit ceci, « Ô fils des hommes, jusqu'à quand serez-vous lourds de cœur? Pourquoi chérir la vanité? Pourquoi poursuivre le mensonge ?» Et c'est vrai que très souvent, dans le monde, l'homme a tendance à être attiré par la vanité et par le mensonge. C'était vrai à toute époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui certainement. Alors pour aider ces hommes à réfléchir, il dit « Sachez donc de quel éclat le Seigneur a fait briller son saint. » Et alors ici, d'après les auteurs spirituels, ce serait déjà l'annonce de la résurrection que le roi David voyait déjà en avance. Sachez que le Seigneur a couvert de saint sa gloire. Saint Jean Chrysostome dit, quand Dieu a-t-il couvert son saint de gloire? C'est le jour de la résurrection. Donc les hommes vivent pour du vent, pour des choses qui sont vaines, c'est-à-dire pour les réalités terrestres qui ne servent à rien pour le ciel. Et pour les aider à réfléchir, eh bien, le roi David dit, sachez de quel éclat le Seigneur a fait briller son saint. Donc sachez que Dieu a pris une nature humaine comme la nôtre, est mort pour nous sur une croix, et maintenant est ressuscité et monté au ciel. Voilà ce que veut dire ce verset. Donc c'est tout le plan du salut, en fait, qui est supposé, pour nous en tout cas qui voyons maintenant ce même verset dans le Nouveau Testament, c'est comme cela qu'il faut l'interpréter. Et le Seigneur m'exaucera quand je crierai vers lui. Dans la mesure où notre Seigneur est monté au ciel, il est maintenant mon avocat auprès de Dieu, et donc je suis sûr que notre Seigneur m'écoutera, lorsque je crierai vers lui. Je crierai vers lui, vous voyez, ça montre que la prière doit être vraiment le cri du cœur, vous voyez. Si on prie du bout des lèvres, si on prie d'une façon distraite, eh bien c'est sûr que le bon Dieu n'entendra peut-être pas cette prière. Pour qu'il entende, il faut que ce soit vraiment le cri. Un cri, c'est quelque chose qui s'entend, vous voyez. Et donc le clamavero ad eum veut dire que c'est vraiment que notre prière doit venir du fond du cœur. Ensuite, quelques conseils qui nous sont donnés, eh bien, celui de ne pas se coucher sur sa colère. Le Seigneur, donc, m'exaucera lorsque je crierai vers lui. Et puis ensuite, mettez-vous en colère, mais gardez-vous de péché. Irachimini et nolite pecare. Alors, il est permis de se mettre en colère, mais hélas, toutes les colères ne sont pas bonnes. Et très souvent, nos colères sont souvent le fruit d'une faiblesse, un petit peu plus que d'une... un acte de force. Donc, évitons de pécher et surtout évitons de nous endormir sur notre colère. Et puis ensuite, autre conseil qui vient juste après, ce que vous dites dans votre cœur, expiez-le dans le remords sur votre couche. Donc ça, c'est une invitation à faire son examen de conscience le soir. Repassez en silence dans votre lit les pensées de votre cœur. Donc, Saint Jean Chrysostome dit, après avoir proposé un remède préservatif, à savoir la modération de la colère, David nous recommande un remède curatif, l'examen de conscience. Et puis après, encore, autre attitude pour plaire à Dieu, offrez un sacrifice de justice, et mettez votre espérance dans le Seigneur. Offrez un sacrifice, et mettez votre espérance dans le Seigneur. Quel est ce sacrifice que l'on doit offrir à Dieu? Eh bien, c'est le sacrifice qui est offert par le prêtre qui, chaque matin, offre le saint sacrifice de la messe. Mais c'est en même temps aussi le sacrifice de nos bonnes œuvres, unis au sacrifice de la croix. Il faut penser à offrir nos bonnes œuvres le soir, en se couchant. Donc après l'examen de conscience où on a regretté le mal qu'on a fait, on doit offrir au bon Dieu le bien qu'on a pu faire pour qu'il serve à notre, pour embellir notre couronne pour le ciel. Et donc, ensuite, après, on doit espérer dans le Seigneur. Une fois qu'on a fait tout ce qui dépend de nous, eh bien, il faut développer cette espérance. Et donc, troisième partie, maintenant, le bonheur du psalmiste. Multi dicunt qui sostendit bonis bona, nobis bona. Plusieurs disent, qui nous fera voir les biens? Donc ça, c'est le langage encore des hommes qui sont sans Dieu, qui vous disent, ouais, vous croyez en Dieu, mais Dieu, nous, on le voit pas. Et alors, la réponse qui est donnée ici par le psalmiste, la lumière de votre visage est gravée sur nous, Seigneur. La lumière de votre visage est gravée sur nous, Seigneur. Et c'est vrai, ça. Ça veut dire, en fait, que, bien sûr que, sans être un saint curé d'Ars, c'est vrai qu'une âme en état de grâce, souvent, elle respire. Voyez, la grâce de Dieu transparaît sur le visage. Et donc, c'est ce que veut dire ici le psalmiste, en disant, vous dites que vous ne voyez pas Dieu, mais si vous regardez le visage de ces dames qui sont là en face, vous verrez cette présence de Dieu sur ces visages épanouis. Et en effet, poursuit le psalmiste, « Dedistil et itsiam in corde meo. » Vous avez répandu la joie dans mon cœur. Vous voyez, Dieu est charité. Lorsque le bon Dieu vient dans une âme, il met la charité. Et la charité va mettre dans notre cœur ensuite deux autres dispositions qui vont en même temps. C'est la joie et la paix. Et ces deux sentiments de joie et de paix apparaissent dans les versets qui suivent. Vous avez répandu la joie dans mon cœur. Et puis après, il dira, pour moi, je dormirai, je me reposerai dans la paix. In pace in idipsum. La joie et la paix, c'est les deux fruits intérieurs de la charité, saint Thomas d'Aquin le dira. Et cette joie, elle est plus grande que celle, eh bien, qui est donnée par tous les fruits de la terre, symbolisés par le affructu frumenti vini et olei sui multiplicati sunt. Beaucoup plus que les fruits, donc le froment, eh bien, la présence de Dieu dans mon âme réjouit mon cœur. Et donc, je m'endormirai, je me reposerai dans la paix, et c'est en raison de ce verset, bien sûr, que ce psaume a été choisi pour les complis le soir, parce que c'est juste avant de s'endormir. Et pourquoi est-ce que je pourrais me reposer dans la paix? Parce que vous m'avez, Seigneur, affermi d'une manière toute spéciale dans l'espérance. Donc, il faut développer pendant cette retraite aussi cette belle vertu d'espérance pour pouvoir nous endormir dans cette paix. Donc, voilà pour le psaume 90. Le psaume 4. Alors, le psaume 90, non, je serai très très bref, même s'il est plus long. C'est simplement pour vous donner le plan pour que vous l'ayez en tête. C'est que dans ce psaume 90, donc, qui suit, il s'agit en fait d'un petit traité sur la providence de Dieu qui est attentive jusque dans les moindres détails à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Donc, c'est un appel pour nous à mettre notre confiance en Dieu. Dieu ici promet, en fait, son soutien, son aide à tous ceux qui se réfugient donc auprès de lui. Et c'est pour ça que dans ce psaume, il y a également trois parties. Première partie, sont simplement les versets 1 et 2. Deuxième partie, c'est les versets 3 jusqu'au verset 14. Et puis ensuite, troisième partie, versets 14 à 16. Donc, dans la première partie, il est dit ceci simplement, « Celui qui se repose sur le secours du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, « Vous me prenez pour vôtre, vous êtes mon refuge. Oui, c'est mon Dieu, j'espérerai en lui. » Donc, ces deux versets montrent bien l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, une attitude de grande confiance. Celui qui habite sous l'assistance du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. Donc il faut que nous apprenions à habiter sous l'assistance du Très-Haut. Et si on lit maintenant le texte hébraïque, c'est encore plus beau d'une certaine manière. Il est dit dans le texte hébraïque, dans le texte qui se rapproche plus de l'original. Là, c'est la version latine qui vient de la version grecque. Donc de la version première, version hébraïque, il est dit « Celui qui se repose dans le sein de Dieu demeurera sous la protection du Dieu du ciel. » Donc se reposer dans le sein de Dieu. Donc tout le but de ce deuxième psaume, c'est uniquement de nous inviter à nous reposer dans le sein de Dieu. Voyez. Certainement que si vous arrivez à retenir même que cela pour la retraite, vous n'aurez pas du tout perdu votre temps. Si vous apprenez à vivre plus près du bon Dieu, eh bien le bon Dieu vous aidera. Voyez. C'est tout à fait le sens de ce psaume. Même si vous ne comprenez pas après tout le reste, eh bien là vous avez compris l'essentiel. Plus on vivra près du bon Dieu, et plus le bon Dieu nous soutiendra dans toutes nos difficultés. Et donc après, ce sont toutes les difficultés de la vie qui sont symbolisées à travers les versets 3 à 13, vous voyez. Donc, Dieu, en ce moment-là, va exercer sa providence paternelle si nous savons nous réfugier dans son sein. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura plus de crainte, ni des hommes, ni des choses, ni de la maladie, ni de la guerre, ni du démon. Et dans ce cas-là, nous verrons un jour ou l'autre le châtiment des impies, et nous serons même assistés par les anges qui seront à nos petits soins. Enfin, c'est pas dit exactement comme ça, mais enfin, c'est ce que ça signifie. Hein. Donc ça, c'est le sens de tous les versets qui suivent. Vous voyez. Donc là encore, c'est un langage qui est très imagé, parce qu'il s'agit d'un langage poétique, hein, mais c'est ce que ça veut dire. Donc il faut bien comprendre le rapport entre le premier verset et tout ce qui suit. « Car c'est lui qui m'a délivré du filet des chasseurs et de la sentence cruelle. Sous ses épaules tu seras couvert et sous ses ailes tu jouiras d'une confiance assurée. Sa fidélité t'entourera comme d'un bouclier, tu n'auras rien à craindre de la terreur nocturne, de la flèche qui vole pendant le jour, du complot qui sourdit dans les ténèbres, de l'assaut que livrera le démon du plein jour. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais l'ennemi ne gagnera rien sur toi. Bien plus, tu contempleras de tes propres yeux et tu verras le châtiment des pécheurs. » Oui, Seigneur, parce que mon espérance est en vous, parce que tu as fait du Très-Haut ton refuge assuré, le mal n'approchera pas de toi et le fouet n'approchera pas de ton tabernacle. Il a commandé pour toi à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront dans leurs mains pour que jamais tu ne heurtes du pied contre la pierre. Tu marcheras sur la spique et sur le basilic et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon. Et donc, jusque-là, vous voyez, c'est toutes les promesses faites à Dieu pour ceux qui savent se réfugier sous ses ailes, ou à son ombre, sous son ombre. Et puis ensuite, les trois derniers versets, c'est simplement une intervention de Dieu, un oracle de Dieu, où Dieu dit « oui, oui, tout à fait, j'agirai bien dans ce sens ». Voyez. Donc les versets 14, 15 et 16, il ne s'agit plus ici du psalmiste qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu qui dit « oui, parce qu'il a mis son espérance en moi, je le délivrerai ». Parce qu'il a mis son espérance en moi, vous voyez. Souvent, nous manquons nous privons de grâce de Dieu parce que nous manquons d'espérance, vous voyez. Plus notre espérance sera grande, et plus le bon Dieu nous exaucera, vous voyez. Chaque fois que nous manquons d'espérance, eh bien, à ce moment-là, on s'enfonce, vous voyez. C'est un petit peu comme Saint-Pierre, lorsque notre Seigneur l'a invité à marcher sur l'eau. Au début, bon, très fougueux, il s'est mis à marcher. Mais après, là, il s'est mis à douter. Et en ce moment-là, il a commencé à s'enfoncer. Et le Seigneur l'a pris par la main, il a dit, pourquoi as-tu eu peur, homme de peu de foi? Voyez. Donc, dès qu'on commence à douter, alors c'est là qu'on s'enfonce, voyez. Mais notre Seigneur aime ceux qui lui font confiance, voyez. Notre Seigneur est avec nous, un peu comme toutes les mamans, vis-à-vis de leurs enfants. Si votre enfant, en ce moment-là, est toujours en train de pleurnicher, de dire, mais maman, est-ce que tu es sûr que ceci, est-ce que tu es cela? Ben, la maman dit, mais fais-moi confiance, quand même. Fais-moi confiance. Voyez, les mamans aiment qu'on leur fasse confiance. Eh bien, le bon Dieu, à notre égard, c'est pareil. Fais-moi confiance. Alors, parce qu'il a mis son espérance en moi, je le délivrerai. Il dit pas parce qu'il a une vie qui est vraiment extraordinaire, parce qu'il est très vertueux. Non, parce qu'il a mis son espérance. Il faut mettre son espérance en Dieu. Alors, bien sûr, ce qui va nous aider à mettre notre espérance en Dieu, c'est notre foi. Et c'est pour ça qu'il faut développer sa foi. La foi développe l'espérance, et l'espérance développe la charité. Donc, parce qu'il a mis son espérance en moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il a connu mon nom. Il criera vers moi et je l'exaucerai. Je suis avec lui dans la tribulation. Vous voyez, je suis avec lui dans la tribulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tribulation. Hein. Le bon Dieu n'a pas promis qu'on ira au ciel en TGV. Hein. C'est pas en première classe. C'est pas le programme ça. Mais je suis avec lui dans la tribulation. Même si mon Dieu semble se cacher, il reste près de nous. Je le délivrerai et je le glorifierai. Un jour, le bon Dieu nous délivrera, c'est sûr, de ce corps de mort, et nous glorifiera au ciel. Et puis enfin, alors, avec les jours durables, je comblerai ses désirs et je lui ferai voir mon salut. Alors, le longitudine hierum replebueum, bon, certains ont pensé qu'il s'agissait d'une longue vie sur la terre. Beaucoup d'auteurs, Saint Bernard par exemple, expliquent que le longitudine hierum, c'est en fait l'éternité, c'est le ciel. Dieu qui promet le bonheur du ciel à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Je comblerai ses désirs et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut, eh bien c'est la vision béatifique, c'est la vision face à face de Dieu que le bon Dieu promet à tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Et puis enfin alors, le dernier psaume que nous allons chanter donc tout à l'heure, dans un instant, le psaume 133, qui a l'avantage d'être très court. Ce psaume, en fait, est le 15e d'un, parce que l'ensemble des psaumes, il y a différents recueils. Et donc là, c'est un recueil de 15 psaumes qu'on appelle les psaumes des montées, parce que les Juifs s'en servaient lorsqu'ils montaient à Jérusalem. Et ce psaume 133 est le dernier de ces psaumes dits des montées. Et donc c'est le psaume qui est en fait un adieu donné par les fidèles au prêtre, avec la réponse du prêtre. Donc vous avez 4 versets. Les 3 premiers versets, ce sont les fidèles qui vont se coucher et qui vont inviter les prêtres de l'Ancien Testament à continuer à bien prier pour eux pendant la nuit, pendant qu'eux vont dormir. Très sympa, hein. Et puis le prêtre bien termine en donnant sa propre bénédiction. Voyez. Donc c'est le sens de ces versets. Bénissez donc le Seigneur maintenant, vous tous, fidèles servants du Seigneur. Donc ce sont les fidèles qui s'adressent aux prêtres. Ecce nunc benedicite dominum, omnes servi domini. Deuxième verset, il s'agit toujours des fidèles qui s'adressent aux prêtres. Qui vous tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison du Seigneur notre Dieu, élevez dans les nuits vos mains vers le sanctuaire et louez le Seigneur comme auteur de tout bien. Donc les fidèles invitent les prêtres à continuer à prier pendant la nuit. In noctibus extolite manus vestras in sancta et benedicite dominum. Alors on peut penser ici à tous les moines, vous voyez, quand on dit ça le soir, qui se lèvent au milieu de la nuit, comme les capucins par exemple, qui se lèvent au milieu de la nuit pour dire l'office des matines. Et puis alors, le prêtre répond par le dernier verset. Benedicat te dominus ex Sion, qui fecit celum et terram. Qu'il te bénisse lui-même de Sion, le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. En même temps, pour nous, le fait de dire ces versets, c'est peut-être aussi une invitation à essayer de ne pas oublier le bon Dieu pendant la nuit, et spécialement si on a des insomnies ou si on se réveille au milieu de la nuit, de prendre l'habitude d'avoir au moins quelques regards vers Dieu, donc quelques oraisons jaculatoires, lorsque, au milieu de la nuit, on se réveille. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir pour vous inviter à bien chanter cette prière des complis. Donc le plus important qu'il fallait retenir, c'est que se dire toujours que cette prière des psaumes est une prière qui a une très grande valeur, puisque c'est la parole même de Dieu. Et si elle a été choisie donc comme prière de l'Église, c'est tout simplement parce qu'elle est justement parole de Dieu et parce qu'elle est aussi parole de notre Seigneur. Notre Seigneur a prononcé ces mêmes paroles que nous allons chanter dans un instant. Alors savoir que le Verbe s'est fait chair a utilisé ces mêmes paroles pour louer son Père, ça doit être un motif qui doit nous aider à bien dire cette prière. Et je terminerai en disant d'ailleurs aussi que chaque fois qu'un prêtre est présent pour cette prière est prière de l'Église en ce moment-là. Et même, d'une certaine manière, est la prière continuée par notre Seigneur. Donc une prière de l'Église a une valeur beaucoup plus grande qu'une simple prière individuelle. La prière de l'Église, l'Église est l'épouse mystique de notre Seigneur. Voyez. Et l'Église poursuit dans le temps la vie même de notre Seigneur. Bossuet disait que l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Donc la prière des psaumes, lorsque cette prière est dite avec un prêtre, eh bien elle est prière de l'Église. Tous les prêtres, même d'ailleurs quand ils disent le prêtre lorsqu'il dit son bréviaire en privé, tout seul, elle est prière de l'Église. Le chapelet qui est dit ensemble en public, eh bien, est une très belle prière, mais c'est une prière privée. Voyez. Le chapelet n'est jamais une prière publique, même s'il y a 50 prêtres qui sont présents, le chapelet n'est pas une prière, ne fait pas partie de la prière de l'Église. La prière qui est dite de l'Église, la prière officielle de l'Église, c'est la prière de l'office divin. Donc, que ce soit les matines, les laudes, prime, sexte, prime tiers, sexte, non, vêpres et complies. Donc cette prière-là a une valeur particulière, bien sûr, aux yeux de Dieu. Et vous, en tant que baptisé, vous avez reçu, le jour de votre baptême, vous avez reçu un sceau qui a été imprimé sur votre âme, c'est ce qu'on appelle le caractère baptismal, et en raison de ce caractère baptismal, vous avez la possibilité de vous unir, justement, à la prière des prêtres, voyez. Donc votre prière, lorsque vous dites les complies, votre prière est aussi prière de l'Église, en raison de la relation, en ce moment-là, par laquelle vous êtes unis au prêtre, voyez. Si vous dites 100 prêtres, vous êtes 50 à dire ou 60 à dire les prières des complies, votre prière sera une très belle prière privée, mais ce sera pas la prière de l'Église. Parce que pour qu'elle soit prière de l'Église, il faut qu'il y ait au moins un membre député par l'Église, donc au moins un sous-diacre, qui dise cette prière. Mais lorsqu'il y a au moins un prêtre, en ce moment-là, elle est prière de l'Église. Et même votre propre prière est prière de l'Église, même si vous n'êtes pas prêtre. Parce qu'en raison du caractère baptismal, vous avez cette possibilité de vous unir à la prière de l'Église. Voyez. Donc c'est important de bien le comprendre parce que il faut appuyer toujours sa vie spirituelle sur quelque chose qui est objectif et qui est donc quelque chose qui est sûr. Quoi. Et donc tout ce que je vous dis là, c'est vraiment la plus pure et la plus saine théologie. Donc nous allons maintenant chanter ensemble cette prière des complies.